Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Victorien Hérussard, coureur au large, officier de marine marchande et fondateur de d'Energy Observer, le premier navire hydrogène autonome et zéro émission, à la fois plaidoyer et laboratoire de la transition écologique. Je suis absolument ravie de t'accueillir dans L'Empreinte, Victorien.
Ravi d'être ici.
Je sais qu'en plus, t'es partout là en ce moment.
Ah oui.
C'est fast.
Ouais. C'est la fin de l'Odyssée autour du monde et... Elle se termine en Amérique du Nord, donc avec des escales qui étaient absolument passionnantes, comme tout le tour du monde. Hein.
Comme tout le tour du monde.
Ouais, mais c'était chouette l'Amérique.
Alors raconte-moi un petit peu en quoi ça consiste Energy Observer.
Alors à l'origine déjà, c'est la passion de la mer, c'est l'envie de décarbonation. Parce que je me suis amusé sur l'eau pendant une vingtaine d'années, j'ai fait de la compétition.
T'es de Saint-Malo, tu me disais.
Exactement, donc berceau de grandes courses transatlantiques comme la Route du Rhum. Transatlantique en solitaire, hein, ces bateaux, ces multicoques qui m'ont fait rêver quand j'étais petit, donc j'ai pratiqué la voile. J'ai fait de la course en voile légère, après de la course au large, mes études d'officier de marine marchande, donc des navigations sur des gros paquebots de croisière, et donc à force de naviguer, j'ai été quand même au premier plan pour voir la problématique de pollution de nos navires. Hein. Donc, voilà, cette passion de la mer m'a donné envie de réagir, d'où l'idée de ce navire Energy Observer bas carbone.
Quand tu me parles de pollution, je vais te dire à l'époque, c'est pas pour te rendre âgé, mais est-ce qu'il y avait déjà cette mesure concrète de l'impact environnemental des bateaux ? C'est une estimation.
Déjà, en fait, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre mondiales, il y a à peu près... je parle des gros navires. Ouais, il y a 100 000 navires de commerce et c'est 3% des émissions globales mondiales de gaz à effet de serre.
Même quand tu optimises, c'est-à-dire quand il y a... Dans les trajets, on parle aussi, tu sais, de partage, d'optimisation de l'espace.
Oui, bien sûr. Okay. C'est 3%.
Okay.
Et puis, ça va très certainement augmenter. Donc, le transport maritime, on en a besoin parce que économiquement, c'est important de faire de l'import, export. On ne peut pas tout faire en 100% made in France, donc on a besoin de ces navires. Maintenant, le bilan carbone, il n'est pas si mauvais que ça par rapport aux grands transports de grands navires porte-conteneurs, par exemple, par rapport aux kilos de transport de marchandises. Si tu rapportes ça aux émissions de CO2, c'est pas dramatique, mais il n'empêche que il faut trouver des solutions.
Exactement.
Il n'empêche que l'Organisation Maritime Internationale impose de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Il n'empêche que ces navires, il y a déjà eu des gros progrès qui ont été faits. À l'époque, ils naviguaient essentiellement avec le pétrole le plus sale, le fuel lourd, qui émet du CO2, mais qui émet beaucoup plus de particules fines, des dioxydes d'azote, des dioxydes de soufre, que le diesel. Alors déjà que le diesel, on émet beaucoup, le fuel, c'est encore plus. Mais il y avait des normes. Donc, on navigue en général au fuel, au large, et dès lors qu'on s'approche des côtes, on change de système et on navigue au diesel. Voilà, donc tout ça a été réduit drastiquement, et il y a des évolutions. Hein. Il y a beaucoup de navires qui naviguent au gaz naturel liquéfié, qui est beaucoup plus propre en termes que particules fines. Il y a des carburants bio, des biocarburants qui sont bas carbone. Le problème, c'est que ça ne suffit pas.
Ça allait être ma question, parce que je me dis, s'il y a des alternatives, pourquoi est-ce que tout le monde ne l'utilise pas ?
On ne peut pas tous passer au carburant bio. Et pour la mobilité maritime, aéronautique, ferroviaire, parce qu'il n'y a pas que des lignes à grande vitesse avec des câbles électriques sur tout le trajet. Il y a aussi des trains régionaux qui utilisent du diesel. Donc, on a besoin de vecteurs énergétiques. On ne peut pas être câblé de partout. Et ces vecteurs énergétiques, il faut qu'ils soient propres. Et nous, on a décidé sur ce navire de tester un mix énergétique. Avec notre mix renouvelable, donc on fait de l'autoproduction. Mais comme vecteur énergétique, on a testé l'hydrogène. L'hydrogène que l'on produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer.
C'est ça qui est génial. Parce que je me suis demandé, avant que tu arrives, mais comment est-ce qu'il se fournit en hydrogène suffisamment pour le stocker ? C'est impossible.
On ne pouvait pas. Ouais. Donc, alors, je vais refaire un petit cours quand même sur l'hydrogène.
Mais carrément, c'est hyper important.
Parce qu'on en parle beaucoup.
Et il y a des polémiques sur les émissions
de
gaz à effet de serre, surtout.
Surtout.
Et on en parlait d'ailleurs juste avant.
Sur tous les sujets énergétiques, l'énergie, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc,
c'est pour ça que la sobriété, quand même, prime. C'est un mot
Sobriété et l'efficacité énergétique, c'est extrêmement important. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire avec ce navire, c'est tester plusieurs solutions. On a des batteries à bord, donc de dernière génération, mais on n'en a pas beaucoup. Les batteries, c'est formidable, le rendement est fantastique, mais le rendement, il s'épuise complètement si vous avez besoin de beaucoup, beaucoup d'autonomie. Et en l'occurrence, notre bateau, il faisait le tour du monde, il ne fait pas la traversée de la Manche uniquement. Là, vous pouvez naviguer pour traverser une rade assez facilement avec des batteries. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, l'hydrogène est un vecteur énergétique qui a l'avantage de ne pas émettre de CO2 et qui a l'avantage de ne pas émettre de particules fines. Par contre, sa densité énergétique est extrêmement intéressante. C'est 4 fois plus que l'essence. Par contre, ça prend une place de dingue.
Ça se voit en fait. Non, on ne le voit pas.
Non, pas du tout.
Parce que moi, j'ai en tête l'image que tu as montrée.
On a 8 réservoirs. Sur le pont du navire. Donc, on a 8 réservoirs et en effet, ça prend beaucoup de place. Donc, il y a plusieurs façons de stocker l'hydrogène. Soit vous le comprimez, c'est du gaz comprimé. En général, c'est entre 200, 350, 500, jusqu'à 700 bars. 700 bars, c'est vraiment l'optimisation en termes de compression qu'on peut retrouver dans les véhicules hydrogène. Soit vous pouvez le liquéfier à une température extrêmement négative. Le gaz naturel, on le liquéfie à moins 150 degrés. Là, on est à moins 253 degrés exactement. On est proche du zéro absolu en termes de température. Donc voilà. Mais c'est quelque chose qui se fait depuis des décennies, de liquéfier cet hydrogène. Ça a beaucoup été utilisé dans l'aérospatial, mais on a vraiment une optimisation intéressante. Et pour avoir un vecteur énergétique qui a suffisamment d'énergie dans le moins de volume possible pour être compétitif par rapport au diesel. Parce que le diesel, pourquoi ? Et l'essence, hein, pourquoi ça a si... Et le kérosène, enfin tous ces carburants, pourquoi ça a si bien marché ? Parce qu'en termes de densité énergétique volumique, c'était le meilleur, mais vraiment le meilleur. Si vous prenez un petit tableau comparatif entre le diesel tout en haut et les batteries tout en bas, je vais citer une marque, Tesla. Vous prenez la densité massique des batteries Tesla. On est autour aujourd'hui de 150 water kilo. Je suis très technique, mais ça permet pour ceux qui s'y connaissent bien.
C'est la minute Jamie.
Voilà. Et ça prend à peu près 50 fois plus de place que le diesel pour la même quantité d'énergie. L'hydrogène, comme sur le navire Energy Observer, ça prend donc stocké à 350 bars, ça prend 12 fois plus de place. Si vous le comprimez à 700 bars, 7 fois plus de place. Hydrogène liquide, 4 fois plus de place. Donc là, vous commencez à vous rapprocher de quelque chose d'intéressant. Puis après, vous avez les autres carburants qui, plus ils sont carbonés, plus ils sont intéressants et faciles à stocker, faciles à transporter. Donc, le carbone, ça sert à ça, en fait. Ça sert à lier les atomes d'hydrogène pour transporter l'énergie. Mais le problème, c'est que ça crée des petits soucis au niveau du climat et au niveau de la santé.
Et justement, est-ce que tu peux soulever les problématiques aujourd'hui liées à l'hydrogène, enfin les problématiques. On voit dans les médias, hein, il y a des suspicions de fortes émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer à mes auditeurs ce que tu m'expliquais juste avant, qui est hyper intéressant?
Ouais, la base, c'est le CO2. Le CO2, la norme, on va dire que c'est la norme. Ça reste 100 ans dans l'atmosphère, à peu près. Et le méthane, donc, qu'on retrouve, hein, gaz naturel, gaz de schiste, l'agriculture bovine, etc. C'est un pouvoir de réchauffement qui est à peu près 30 fois supérieur au CO2. Par contre, ça reste à peu près 3 fois moins de temps dans l'atmosphère. Par contre, l'hydrogène, on dit beaucoup de choses là-dessus. Il y en a qui disent 300 fois, c'est pas 300 fois, c'est le pouvoir de réchauffement global de l'hydrogène, c'est 200 fois plus que le CO2. Par contre, ça reste très peu dans l'atmosphère.
Ça redescend tout de suite quasiment, comme l'eau, tu me parlais d'évaporation de l'eau.
C'est exactement ça. Donc ça reste moins d'un an. Donc en soi, c'est pas un problème. Donc voilà, les autres soucis qu'on entend aujourd'hui, surtout sur l'hydrogène, c'est le coût. Mais le coût, tant qu'il n'y aura pas un marché, une massification importante, c'est comme une télé de dernière génération 8K. Elle est chère au début, et puis c'est en adoptant ces technologies que ça réduit. C'est comme ça pour tout type de technologie.
Tout ce qui n'a pas été mis à l'échelle, en fait, pour le moment.
Exactement. Donc, et pour l'instant, l'enjeu, c'est la production d'hydrogène. Avant la distribution, l'utilisation, les enjeux, c'est cette production d'hydrogène. Et pour produire de l'hydrogène, faut de l'électricité.
Et puis ça prend la place, comme tu le disais.
Faut de l'électricité, faut des électrolyseurs de qualité. Et les industriels, à travers tous les plans mondiaux, se sont lancés il y a quelques années. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc il faut être patient, et il faut arrêter de critiquer. Il faut.
Surtout que le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'aura pas d'alternative, sinon pour l'aviation. Parce que c'est quand même. Pour l'aviation, moi j'entendais beaucoup parler justement d'hydrogène aussi, vert.
En fait, l'hydrogène, vous en avez besoin.
Parce que malheureusement, ce qui n'est pas d'hydrogène vert reste une énergie fossile en fait. Pas fossile, mais c'est produit à base d'un mix énergétique carboné.
Alors,
c'est compliqué tout ça, on est dans la minute Jamie.
Alors attention, pareil. Lorsqu'on voyait les premiers véhicules hydrogène rouler avec de l'hydrogène gris, on l'appelle gris parce qu'il est issu des énergies fossiles.
Ouais, c'est ça.
Tout le monde disait, mais vous avez vu, c'est un scandale. Mais l'hydrogène n'a jamais servi à la mobilité. L'hydrogène, il a servi à l'industrie. Il a servi à fabriquer des matières premières, verrerie, cimenterie, sidérurgie, les semi-conducteurs, à faire des engrais, etc. Et cet hydrogène, on le produisait pas cher grâce à notre champion, les énergies fossiles. Donc voilà, et ça ne servait pas aux 3 ou 4 000 véhicules à travers le monde qui ont commencé à tester des piles à combustible. Donc voilà, c'est pareil, ce sont des raccourcis qui sont extrêmement énervants.
Et sont dangereux aussi pour l'industrie de
l'hydrogène,
parce que ça
abîme la filière, bien évidemment. Et donc, on a besoin de ce vecteur énergétique. On a besoin de le produire de façon vertueuse, donc avec une énergie électrique décarbonée et à un coût acceptable, parce que l'hydrogène, c'est un carburant, un vecteur énergétique d'origine électrique. Alors, il y a de bonnes nouvelles, parce qu'on entend beaucoup parler d'hydrogène blanc, avec des centaines de millions de tonnes à droite, à gauche, même en France, qu'on trouve sous notre sous-sol. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
J'espère que dans quelques années, on ne va pas se rendre compte qu'en fait, ça émet X trucs qui restent 12 ans dans l'atmosphère.
Oui,
c'est ça le problème.
C'est comme le méthane, surtout le méthane, en fait. On promeut à peu près 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins que le pétrole. Alors, beaucoup d'avantages en termes de réduction de particules fines. C'est à respirer, c'est pas dangereux pour la santé. Mais sur le cycle d'extraction, de transport, distribution, etc., il suffit de quelques pourcents de fuite pour que le bilan soit aussi négatif que le charbon. Donc voilà, il faut maîtriser tous ces sujets-là.
Je trouve que ton navire illustre bien ce mix énergétique et ce manque finalement de nuances parfois qu'on a. Il n'y a pas une solution unique, c'est un mix.
Exactement. Donc j'entends beaucoup d'experts sur le sujet. Chacun défend un petit peu trop en fait le secteur qui l'intéresse. Certes, en termes d'efficacité, le nucléaire, il n'y a pas mieux. Être connecté avec des câbles, il n'y a pas mieux au niveau rendement. Mais le système énergétique mondial, on a besoin d'avoir une solution de mix énergétique.
Exactement.
Aussi pour des raisons géopolitiques. Donc voilà, donc moi je suis parti au tout début avec cette envie de décarbonation, avec les connaissances que j'avais il y a 7 ans. Maintenant, j'en ai beaucoup plus. Je suis parti avec une certaine candeur, avec un monde idéal, avec 100% d'énergie renouvelable. C'est fantastique, tout va bien, etc. Mais je peux vous dire que on a eu la chance d'explorer une cinquantaine de pays, de faire une centaine d'escales, d'être accompagné d'ingénieurs, de scientifiques, de tourner des films, etc. Parfois, on voyait des solutions industrielles très intéressantes sur ces thématiques. D'autres soirs, on voyait des choses qui nous faisaient mal au ventre le soir parce qu'on se disait, on est vraiment dans la merde, excusez-moi du terme.
Oui, bien sûr.
Et voilà, et le bilan de ce tour de monde, bah, c'est qu'il existe de multiples de solutions. C'est que le changement climatique est tellement là, présent devant nous. On a besoin d'accélérer. Et pour accélérer, il faut valoriser les acteurs du changement, les pionniers qui testent, qui essayent, qui se retroussent les manches, qui investissent. Et qui essayent de trouver des solutions plutôt que de critiquer en permanence ceux qui essaient. Donc, mais c'est ça qui me désole un petit peu, particulièrement en France, je me permets de le dire.
Et je te rejoins un petit peu. Mais ce qui me rassure, moi, à titre personnel, c'est que j'ai l'impression que tu ressors de ce tour du monde. Tu vois, moi, je n'ai pas le courage et je n'ai pas non plus peut-être l'opportunité d'aller faire ce genre de tour du monde, d'aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Tu m'as l'air quand même assez optimiste, un peu en colère, contre les gens en colère, typiquement. Mais plutôt optimiste, malgré les choses, tu m'as dit, affreuses quand même que tu as vues.
J'ai un optimisme raisonné.
Oui, non, mais de toute façon, on ne peut pas être ultra optimiste, mais je veux dire moins pessimiste que peut-être la moyenne qui dit qu'on est foutu.
J'ai une nature optimiste, mais c'est vraiment raisonné. Je vois qu'il y a des solutions.
Et de l'envie aussi.
Et de l'envie. Par contre, il y a de la déstabilisation claire, nette, qui existe. Et c'est ça qui me fait peur. Il y a des incohérences politiques. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a il y a une nouvelle ère qui est en place. Par contre, ça va mettre 15, 20, 30 ans de plus du temps qui nous est alloué pour être efficace, pour réduire notre impact carbone.
Et lors de ces escales, en fait, tu sensibilisais aussi les populations locales ?
Ou oui, ben à mon échelle, quoi. Ouais. Voilà, avec nous, on a eu presque 500 000 de personnes à passer dans nos villages qu'on installait au cœur des villes à droite à gauche. Donc voilà, on a produit des documentaires, on a qui sont passés à la télévision, on a produit du contenu pédagogique. On aurait aimé que ça marche un petit peu plus sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, on est toujours confrontés aux algorithmes, à l'intérêt.
Parfois, les gens préfèrent du putaclic. Désolé pour le jargon, mais...
Et c'est pas évident, il faut payer maintenant pour être vu.
Il faut payer, c'est compliqué.
C'est dommage, parce que quand vous émettez du contenu de qualité, vous avez envie que ça serve à quelque chose.
Justement, là, tu as un livre, et je pense que lorsque cet épisode sortira... Il sortira très prochainement, ou il sera sorti depuis peu. Et dans ce livre, tu parles de toute ton expérience, non,
ouais,
j'imagine ?
Ouais, alors ça, je suis très fier. J'ai signé avec les éditions Gallimard. Ça fait presque 8 mois que je suis dessus. Enfin, ça fait plus de temps que ça, parce qu'au final,
Tu le rédigeais dans le navire ?
On a tout écrit, notre tour du monde, depuis 7 ans.
Ouais.
Donc
ouais,
voilà, on avait sur nos serveurs plus de 40 000 photos à disposition. On en a sélectionné 200. Ça a été un énorme travail. Et donc, on a écrit tellement de choses sur ce tour du monde qu'au final, il fallait tout rassembler, réunir. On fait ça avec l'écrivain Gilles Luneau. Et il va sortir, je crois, à peu près mi-octobre. Donc voilà, il y a encore un petit peu de travail. Mais on est content parce qu'on a partagé cette aventure humaine. Ça reste une aventure humaine en premier lieu, technologique avec le navire. On a montré tout le sérieux, en fait, de l'architecture énergétique du navire qui avait été créé. Donc on voit vraiment l'intérieur hein, de ce navire laboratoire. Les coulisses du projet, et puis on voyage à travers ce livre. Hein. Le livre s'appelle « Voyage au cœur des enjeux énergétiques ». Et on a eu la chance d'aller partout dans le monde, comme je l'ai dit, on a visité tous les continents.
Mais est-ce que ton bateau, en 7 ans, a évolué aussi avec parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avancées, même en ces dernières années.
Oui, parce que parfois, il marchait sur 3 pattes. Il y a des choses qu'on a testées qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas. On a intégré à un moment 2 ailes de propulsion vélique, ouais. Des ailes automatisées, rotatives à 360 degrés, qui est une excellente solution d'être intégrée sur les navires de commerce et qui permet justement d'aller naviguer avec des carburants décarbonés. Et tous les carburants décarbonés, ils prennent plus de place. Donc, c'est une solution pour moins dépenser d'énergie et pour éviter de transporter de l'énergie. Ce qui nous intéresse, c'est de transporter de la marchandise. Et donc, dans ce bouquin, on montre les optimisations de ce navire. Et puis, on a voulu partager, faire un peu un état de l'art de tout ce qu'on a rencontré autour du monde. On ne parle pas uniquement d'énergie renouvelable, hein. Ouais. Bien évidemment, on en parle, hein, de solaire, d'éolien, d'hydraulique, de biomasse, mais on parle aussi des énergies fossiles, hein, pétrole, gaz naturel, charbon. On parle aussi de tous les vecteurs énergétiques, les batteries, l'hydrogène, les e-fuels. Et puis, on parle aussi de nucléaire.
En fait, c'est bien. En fait, t'es là pour aller voir sur le terrain ce qui se passe.
Oui, voilà. Exactement.
Ouais, trouver une solution, c'est génial. Et tu sais quoi, tu vas bientôt, on va dire, est-ce que tu vas avoir le mal de terre, peut-être même ?
Ben, bien sûr.
Je crois que c'est un, oui.
Bah, le mal de terre, pas physiquement. Le mal de terre, on le vit comme ça arrive. Hein. Moi, parfois, j'ai fait des traversées où j'étais plus de 30 jours en mer. Pendant une journée, c'est bizarre, ça bouge pas assez. Mais non, le mal, oui, c'est sûr que c'était une aventure absolument incroyable. J'ai eu la chance de la vivre avec tous mes collaborateurs. Et ma vie était remplie d'aventures, d'actions. Alors, elle l'est toujours, même à terre, mais ça va faire bizarre.
Et tu vas faire quoi alors, du coup ? Parce que je parie qu'en effet, tu vas sans doute te relancer dans un projet.
Bah, bien sûr.
C'est impossible, je pense que voilà, c'est quand on est...
Je suis accro à ça. Et ouais. En fait, j'ai tout le temps eu des projets. Avant de faire ça, j'avais mes bateaux de course. Plus jeune, j'avais mes compétitions, mes championnats de France, mes championnats du monde, de catamaran de sport.
Tu vas retourner à Saint-Malo, d'ailleurs ?
C'est mon truc. Mais par contre, voilà, j'ai mis... Oui, je vais retourner à Saint-Malo. J'ai mis de côté la compétition parce qu'on ne peut pas vivre là, actuellement, dans un monde de compétition, mais plutôt dans un monde de collaboration.
Carrément.
Et je préfère, en fait, vivre ma vie à travers des aventures technologiques qui servent à quelque chose que des aventures sportives. Donc voilà, c'est plus ma raison d'être. Et bien évidemment, je suis en train de préparer le futur. Mais le futur, je le présenterai dans peu de temps. Mais bon, c'est à base de nouvelles expéditions et de nouveaux navires.
On va suivre ça de près alors.
Yes.
Est-ce que tu as un petit mot pour la fin à partager à mes auditeurs ?
Qu'il faut garder un petit peu d'optimisme, raisonner, comme je le dis, parce que...
T'es arrivé, t'étais plein de candeur il y a 7 ans,
oui.
Peut-être, mais plein d'envie, et peut-être que là, maintenant,
Il faut garder espoir, il ne faut surtout pas baisser les bras.
Mais par contre, il faut garder espoir, mais il faut agir aussi.
Mais voilà, il ne faut pas rester comme ça, rester les bras croisés et critiquer. Il faut essayer d'être du côté de ceux qui innovent, qui essayent de trouver des solutions au final pour qu'on vive, dans un monde soutenable. Souvent, on parle de durabilité, mais c'est ça, c'est vivre dans un monde soutenable, parce que bien évidemment, on l'a déjà abîmé, cette planète. Et c'est difficile, tout s'accélère. Enfin, moi, je suis allé avec le navire, on était avec des glaciologues, des climatologues avec nous, et l'impact, on l'a vu. Et malheureusement, on ne pourra pas revenir en arrière, que ça soit au niveau du climat et au niveau des soucis qu'on a avec la biodiversité. Donc, mais on ne peut pas être fataliste et amplifier, en fait, tous ces dérèglements. Donc, en fait, il faut agir au plus vite et puis arrêter de...
J'ai beaucoup aimé quand tu parlais de...
D'être réac.
j'ai beaucoup aimé quand tu me disais, oui, j'ai mis de côté la compétition pour la collaboration.
Ouais.
Et je pense que tu as raison. On oublie d'abord qu'on est une société,
oui.
Et qu'on est là pour vivre ensemble,
ouais.
Et pas vivre les uns contre les autres. Et malheureusement, dans ce climat de guerre,
ouais.
On a tendance à l'oublier. Donc, je trouve que c'est une belle façon d'illustrer ta mise à l'écart de la compétition pour la collaboration. Et j'espère que...
Je dois avouer que je continue à en faire
petit peu. Tu peux continuer.
Ça me manquait. Non, je crois que c'est l'effet des Jeux Olympiques là qui.
Ah oui, mais tu portes. Alors là, du coup, on l'enregistre la veille du jour où il porte la flamme olympique.
Ouais.
On va suivre ça de près.
Ouais, j'ai fait ça au Mont Saint-Michel.
Ah, trop bien.
Ouais, parce que c'est une des merveilles du monde et ce monde, j'ai eu la chance de voir qu'il était merveilleux. Donc symboliquement, je suis allé faire ça là-bas. Et le sport a été quelque chose de très important dans ma vie. Et ça m'a donné envie là, j'ai 45 ans là, dans quelques jours. Ça m'a donné envie de prendre soin de moi. Il n'y a rien de mieux que,
c'est le meilleur médicament.
Que le sport en termes de médicaments. Et donc, je me suis motivé. J'ai refait du catamaran de sport à haut niveau parce que je viens de faire un championnat de France et je pars faire un championnat du monde après le retour de mon bateau à Barcelone.
Après 7 ans de tour du monde, tranquillement.
Voilà. Donc, j'ai hâte de retrouver ces sensations.
Bah, on te souhaite en tout cas plein de réussite. On va suivre la sortie de ton ouvrage aussi.
Yes.
Et merci. Merci d'être passé par, d'avoir, on dit, faire une escale, d'avoir fait une escale ici.
À Paris.
À Paris.
Yes. Et je vais refaire une escale à Paris parce que le bateau, après revenir à son port d'attache, donc le 14 juin, on viendra le lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le 27 juillet. On sera pendant quelques mois entre le pont Alexandre III et le pont de l'Alma. Donc si vous voulez venir voir
Du coup, l'épisode sera là. Sera sorti après ça, donc ça, je pense que je vais dire à l'ingé de ne pas le mettre. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, on en parlera sur nos réseaux.
Ouais, ok, ça marche.
Merci, Victorien.
Merci.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs, nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.